Radio Galère 88.4 de la bande FM marseillaise DAB+. L'histoire continue et permanente, une émission d'Éric Lebreu. Aujourd'hui, 120 ans d'histoire du naturisme à Marseille, entretien avec Bruno Sorez. Deuxième partie, quand Marseille était capitale du naturisme.
Il faut un chef. 120 ans d'histoire du naturisme à Marseille. Dans le cadre de notre émission L'Histoire continue, nous continuons d'aborder ce sujet très mal étudié, l'histoire du naturisme et plus particulièrement à Marseille avec Bruno Sorez, militant naturiste, président de l'association naturiste phocéenne et auteur de 120 ans d'histoire du naturisme à Marseille. Après avoir abordé la genèse du naturisme et défini les fondements du naturisme, nous allons aborder l'histoire du naturisme à Marseille des années 30 à la Libération et plus particulièrement cette expérience oubliée par beaucoup de Marseillais, celle du naturisme sur l'île du Frioul à l'hôpital Caroline en 1931 qui a fait de Marseille pour un bref temps la capitale du naturisme. Deuxième partie de cette émission sur 120 ans d'histoire du naturisme à Marseille, titrée « Quand Marseille était capitale du naturisme ». Avec Bruno Sorez. J'interview Bruno Sorez, qui est auteur de 120 ans de naturisme à Marseille, qui est à l'association naturiste phocéenne. Et là, on va parler d'une expérience à Marseille qui est très méconnue des Marseillais, qui s'est passée en 1931, qui est l'expérience naturiste du Frioul, sur l'île du Frioul, dans l'hôpital Caroline, en 1931. Et c'est vrai que c'est bizarre, parce que là, c'est vrai qu'actuellement, là, on n'a pas l'impression de pouvoir faire du naturisme. Alors, c'est quoi cette expérience-là? Quel motif? Et quelle est un peu l'évolution de la vie naturiste à Marseille dans les années 30 jusqu'à la fin de la guerre? Alors d'abord, c'est quoi cette expérience du Frioul?
Alors, en fait, l'expérience du Frioul est intéressante à noter, puisque, comme je vous ai dit dans la précédente émission, ces précurseurs du naturisme marseillais étaient des gens qui avaient un certain aura dans la société, une certaine écoute de la part des autorités, puisque c'était des médecins très, très respectés, très, très appréciés de leurs confrères, parce qu'ils ont littéralement sauvé des vies. Et ces naturistes, donc, avaient un petit groupe, au moins depuis 1928, sinon plus tôt, mais j'ai pas de traces plus tôt, donc au moins depuis 1928. Ils étaient quasiment tous issus des bains de soleil avec l'abbé Urbain Le Gret, et ils se regroupaient pour faire des sorties ensemble. Et en 1930, ils ont fait les démarches pour avoir accès à l'hôpital Caroline, qui est situé au Frioul et qui appartenait aux militaires à l'époque, mais qui était en déshérence et abandonné. Il y avait juste un garde qui l'occupait.
Pour rappeler aux auditeurs que l'hôpital Caroline, c'était en fait l'hôpital de la quarantaine pour les bateaux où il y avait un cas de contagion et qu'on imposait à l'équipage aux marins de rester 40 jours pour éviter des épidémies comme la peste de 1720, pour préciser.
Oui, tout à fait. C'était aussi pour la fièvre jaune, typhoïde, mais ça n'a jamais vraiment été utilisé parce qu'après, vers la fin du 19e siècle, il y a le lazaret d'Arin qui a été construit et les autorités ont préféré envoyer les bateaux là-bas. Et donc, du coup, il n'a quasiment pas été utilisé, ce lieu. Et donc, du coup, ils se sont rapprochés du docteur Ribaud, qui était responsable de sanitaire de la ville et qui est devenu maire en 1930. Et le docteur donc Poussel et le docteur Beltrami ont demandé une autorisation pour occuper l'hôpital Caroline. Et avec la seule obligation, c'est que l'association soit légalement constituée et déclarée. Donc à ce moment-là, ce petit groupe d'amis a fait une déclaration en préfecture en mars 1930. Ils se sont appelés les naturistes de Provence et ils ont eu l'autorisation d'occuper l'hôpital Caroline avec une autre condition exigée de la part des autorités, c'est de ne pas en sortir. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas aller se baigner sur les criques de peur d'être vus par les pêcheurs ou les quelques militaires. Et évidemment, ben, c'est ce qu'ils ont fait, ils sortaient de l'hôpital dès qu'ils pouvaient pour aller se baigner.
Oui, au regard peut-être très compatissant des pêcheurs qui peut-être s'attardaient un peu à pêcher dans le coin.
Ben, ça, je ne sais pas. Je n'ai pas d'anecdote dessus. En tout cas, ils avaient mis en place une sorte de rotation pour faire le guet, pour voir que personne n'arrivait et pouvoir se rhabiller en cas d'intrus improviste.
Oui, ça rappelle le temps, un petit feuilleton des gendarmes de Saint-Tropez, ça.
Oui, c'est vrai. À l'époque, en 1930, ils étaient déjà aux aguets.
Oui, d'accord. Il n'y a pas encore l'âge d'un Cruchot à l'époque qui fréquentait le lieu.
Attention. C'est grand, mon adjudant. C'est bien qu'on ne peut verbaliser comme une forme. Attention. C'est prêt. Attention.
Cherchez quelque chose, messieurs.
Les nudistes, où sont-ils?
Les nudistes? Quelqu'un a vu des nudistes ici? Prenez vos désirs pour des réalités, gendarmes.
Cruchot, Fougas, ici! On les aura! Je vous jure qu'on les aura!
Oui, d'ailleurs, c'est bien parce que là, dans ton ouvrage, tu as publié une première page d'un magazine qui s'appelle The New Zeit. Contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas allemand, mais suisse. Et on voit... Alors, l'hôpital Caroline, c'est-à-dire plutôt ce qui est une forme de bâtisse gréco, enfin néo-grec, c'était construit au 19e siècle, mais ça ressemble à un temple grec, où on voit plusieurs naturistes se mettre en photo, avec une photo très superbe, là. Alors, tu peux m'expliquer une fois cette revue-là, et ces personnes-là qui sont présentes, qui étaient sur l'île de Frioul, qui étaient ces personnes-là?
C'est une association suisse qui a créé un club en 1937. Ce club existait déjà, non officiellement, mais plus tard ils l'ont déclaré. Ce centre de vacances existe toujours en Suisse, à côté du lac, je ne sais plus lequel. C'est un des seuls centres naturistes en Europe où la consommation de viande et d'alcool et de tabac est interdite. Oh. Ils sont restés très rigoureux sur les principes premiers du naturisme.
Avis aux amateurs.
Oui, on ne peut même pas y amener des animaux domestiques. Hein. Ils sont très stricts sur ce niveau-là. Et donc, du coup, il y avait une délégation, à peu près d'une quarantaine de personnes, qui est venue de Suisse en 1930, sur invitation des Marseillais. Il y avait le secrétaire de l'époque de cette association qui était publiciste de métier, qui a fait énormément de communication à travers les magazines naturistes allemands et espagnols et français et suisses de l'époque. Donc du coup, les Marseillais ont eu la réputation d'être la capitale du naturisme à l'époque.
C'est bon à savoir que Marseille était capitale du naturisme à l'époque.
Que du coup, Suisse nous avait surnommé les Amis de la Lumière, puisqu'ils avaient trouvé le lieu très, très ensoleillé, forcément.
Vous étiez venu vers quel mois?
Juin, juillet, je crois. Alors certains y sont restés même 2 semaines. Il y avait donc des bateaux qui leur apportaient de l'approvisionnement. Il y avait une dame qui était allemande, à un moment donné, une allemande qui est venue, qui était très opposée à la montée de l'antisémitisme et du nazisme aussi en Allemagne. Ça, je l'ai découvert grâce au livre de Marc Cuet. Thérèse Mulhouse-Vogeler.
Thank you. joyeux et ses mille merveilleux. Sa canebière est populaire, mais pour nous plaire, il est encore un coin étrange qui toujours change, c'est le coin du vieux port. Au monde qui a rien de pareil qu'un beau jour de soleil sur le port de Marseille. Les femmes, c'est merveilleux, ont de l'amour plein les yeux sur le port de Marseille. Les marchands vous appellent et vous criez, ma belle, viens donc goûter mes oursins, ils sont pleins. Même l'hiver, c'est vrai, c'est, il y pleut jamais sur le port de Marseille. Y passer toute sa vie, ça vaut son creuson d'or à marcher sur le port. Rien qu'en voyant partir les bateaux aux quatre coins du monde, là-bas chacun se sent aussitôt une âme vagabonde. Connaître l'Afrique, les Amériques, c'est magnifique, mais à quoi bon, puisque sur place toutes les races, chez nous, nous les avons. Au monde qui a rien de pareil qu'un beau jour de soleil sur le port de Marseille. Les femmes, c'est merveilleux, ont de l'amour plein les yeux sur le port de Marseille. Les marchands vous appellent et vous criez, ma belle, viens donc goûter mes oursins, ils sont pleins. Même l'hiver, c'est vrai, c'est, il y pleut jamais sur le port de Marseille. Y passer toute sa vie, ça vaut son creuson d'or à Marseille sur le port. Il y pleut jamais sur le port de Marseille. Il y passait toute sa vie, ça vaut son creuson d'or à Marseille sur le port.
Cet accord avec la mairie donné par le docteur Ribot, quand ce fameux docteur très apprécié de la population est décédé en 1935, et ben le suivant a levé l'accord et ils ont dû partir de l'hôpital Caroline. Mais ils l'occupaient de moins en moins puisqu'ils avaient trouvé un autre lieu du côté de Saucé-les-Pins.
Alors oui, il me dit que la première année, le centre avait bien marché, mais la deuxième année, on avait réservé uniquement l'accueil de l'île à uniquement ceux de nationalité française qui avaient posé problème à un responsable qui était anglais.
Oui, c'est ça. Bah, je vois que tu as bien étudié mon livre. Effectivement, en fait, les naturistes de Provence de l'époque, le fameux secrétaire qui faisait beaucoup de communication dessus, qui était un Anglais résident à Marseille, Dudley Ellis, ils ont tellement fait de communication qu'à certains moments, ils étaient plus d'une centaine à l'intérieur de l'hôpital Caroline. Ça a fait beaucoup de bruit et, au niveau du Vieux-Port parce qu'ils prenaient le bateau pour l'île, à tel point qu'ils ont dû acheter presque une embarcation pour y aller par leur moyen. Et ce va-et-vient au Vieux-Port avec ces gens un peu plus débraillés que ceux qui étaient sur la canebière, ça a dénoté et certains articles de presse ont eu vent de cette occupation. Il y a eu des jalousies avec d'autres associations qui auraient bien voulu occuper l'hôpital Caroline mais qui n'en ont jamais fait la demande. Donc du coup la mairie de l'époque avait dit bon ben ok, il n'y a pas de problème, vous pouvez continuer à occuper l'hôpital Caroline, mais c'est uniquement réservé aux Marseillais, c'est pas réservé à la planète entière. À un moment donné, il y avait même un Japonais qui était venu, donc qui devait sûrement venir d'une embarcation maritime. Donc, il fallait que ça soit fait, mais plus discrètement. Et ce secrétaire anglais, ça lui a pas plu. Il a créé sa propre association qui s'est appelée les Libres Culturistes de Provence. Et il est allé s'implanter pendant un certain temps du côté de Arles et de la Camargue pour continuer à faire la promotion du naturisme comme il l'entendait, c'est-à-dire en diffusant toutes les sorties qu'il faisait. Et en accueillant tout le monde.
D'accord, oui. Donc il y avait déjà une première scission entre un mouvement naturiste à cette époque-là.
Oui, c'est un peu dommage. Le naturisme était à peine naissant à Marseille. Ils étaient tout juste 200 adhérents et il y avait déjà une scission entre eux, quoi. C'est un peu dommage, mais c'est l'histoire qui fait ça.
Et mis à part l'île de Frioul qui a duré un certain temps, où étaient les lieux privilégiés des naturistes à Marseille à cette époque-là, dans les années 30 jusqu'aux années 40?
Eh bien, je vais surprendre personne pour en vous disant que le naturisme était très pratiqué dans les Calanques, notamment avec pour guide le fameux docteur Joseph Poussel dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui connaissait très bien avec sa famille les Calanques et qui a été parmi ceux qui ont emprunté les premiers les sentiers. Et c'était un très très grand botaniste aussi. Donc ses sorties étaient très culturelles avec une description des plantes, de la faune, de la flore. Il connaissait tout sur la nature et c'était très intéressant d'après ce qu'on m'a dit de faire des randonnées avec lui dans les Calanques. Et il allait principalement au Père-Tombé déjà, à Sugiton. Alors à l'époque, c'est vrai que c'était un domaine privé. Puisque ça appartenait à la famille Fabre, mais ils avaient leur bon de passage et certains naturistes étaient très connus et du coup ben ils pouvaient se balader, certains se baladaient déjà en petite tenue
sans tenue tu veux dire
ou sans tenue. Et ce qui était rigolo, c'est que on m'a rapporté l'anecdote du garde champêtre qui était là pour surveiller un peu que le domaine, après la Seconde Guerre mondiale, était encore privé, puisque la famille Fabre, enfin ça c'est une autre histoire, mais avait été expropriée. Et quand les gardes champêtres voyaient les naturistes dans leur tenue, ils disaient: moi je sais de quelle association vous appartenez, je vous reconnais.
Tu veux dire dans leur tenue d'Adam?
Voilà, au moins je vous reconnais, j'ai pas besoin de savoir d'où vous sortez.
D'accord. On me dit qu'à l'époque, il y avait aussi une jeune professeure de philosophie qui était enseignée à Montgrand, qui était très discrète, mais qui est devenue célèbre plus tard.
Simone de Beauvoir. Oui, effectivement, dans le livre 120 ans de naturisme à Marseille, je cite l'anecdote de Simone de Beauvoir qui fréquentait une calanque qui s'appelle la dalle de l'Alec, qui est une dalle de 400 mètres de long, très difficile d'accès, et c'est pas facile de trouver d'ailleurs l'accès, qui allait dès 1935, bronzée nue, au soleil des Calanques. Voilà, elle est devenue célèbre par la suite.
C'était quoi les Calanques privilégiées, les naturistes? C'était la Calanque, on a parlé des pierres tombées, celle de l'Alec. C'était quoi les Calanques? Les Calanques qui étaient les plus fréquentées par les naturistes à l'époque?
Alors ça, c'est une question très intéressante, puisque ça me permet de dire qu'en fait, à l'époque, toutes les Calanques étaient fréquentées par les naturistes. Il y avait sur tous les rochers, il y avait des naturistes. Alors peut-être pas en 1930, 1935, parce que bon, je ne pense pas qu'il y avait plus de 1000 naturistes à Marseille à l'époque, mais progressivement, jusqu'aux années 70, toutes les Calanques étaient fréquentées par les naturistes, sauf les Calanques habitées, évidemment, celles de Sormioux ou de Morgioux, ou évidemment encore de Calelongue, il n'y avait pas de naturistes. Mais et encore que à Sormioux, j'ai connu l'écrivain peintre Élie Boissin, qui est décédé il y a quelque temps, qui m'a dit que moi jeune, j'ai connu tous les rochers, j'ai fait tous les rochers de la Calanque où je me suis mis nu.
D'accord.
Donc oui, il y avait des naturistes même à Envaux. Moi j'ai connu Envaux dans les années 80 où la moitié de la Calanque était fréquentée par des naturistes. Je l'ai vu de mes yeux avec mon père dans les années 80, où je descendais par le sentier noir qui est maintenant interdit à cause de la Sabine de Provence très présente sur le lieu, et on est arrivé sur la crique, la moitié des gens étaient nus.
Et dans le wagon de troisième, on galège avec les voyageurs. La bonne humeur est notre emblème, nous avons du soleil dans le cœur. Dans ma petite calanque, en bord de mer sous le ciel bleu. Dans ma petite calanque, chaque dimanche on est nombreux. Tous en famille dans l'eau qui scintille, on fait des jours frais. Puis on se flanque une rousse à pétanque et sous les grands pecs, le pastis vient à point dans ma petite calanque, au bord de mer sous le ciel bleu. Dans ma petite calanque, on chante, on rit, on est joyeux.
Mais les pescadous sur les rochers se sont perchés, ils ont bien pêché. Olive et Titem partis plus tôt dans leur bateau, ont pris des pajots. Si la cuisinière est capable pour les préparer, ce n'est pas long. Dès qu'on a les pieds sous la table, on a l'estomac dans les talons. Dans ma petite calanque, en bord de mer sous le ciel bleu. Dans ma petite calanque, vers les midis on mange un peu. La soupe épaisse, une bouillabaisse, les tranches de pain. On se débride, les fiasques se vident, et sous les grands pins, on va dormir un brin dans ma petite calanque, au bord de mer sous le ciel bleu. Dans ma petite calanque, coquin de sort qu'on est heureux. Quand le soir descend dans le vallon, à l'horizon, le soleil se pend. Est-ce le pastis ou la chaleur, mais tous les cœurs ont soif de bonheur. Et bientôt dans l'ombre complice, tandis que les vieux font un piqué, de par deux les jeunes se glissent, ils préfèrent un jeu moins compliqué. Blondes et brunes s'en vont sous la lune avec leurs béguins. S'abandonne, parfois l'on se donne, et sous les grands pins monte un bien doux refrain dans ma petite calanque, quand la nuit voile le ciel bleu. Dans ma petite calanque, tous les amoureux sont heureux.
Alors, dans les années 40, bon, je pense que la guerre faisait que les plages étaient devenues interdites et que l'occupation allemande n'a rien arrangé la situation, puisque je pense que la calanque était déjà fortifiée. Et d'ailleurs, la route qui mène à Sujeto était une route qui a été construite par les Allemands pour accéder à leur batterie.
Je crois que c'est Favre qui a construit la route, le propriétaire. Après, le belvédère qu'on voit au bout, c'est possible que ce soit ça, je ne suis pas sûr.
On sait qu'il reste quelques éléments de batterie, mais sur là, la question de la période est un peu noire, un peu pour les naturistes, et noire pour beaucoup de monde, hélas, aussi pour les juifs qui ont été déportés à Marseille et les résistants qui ont été tués. Mais il y a, je vois dans un ouvrage une peinture là, de Jean Murat qui a peint un Allemand là, aux pierres tombées, qui s'appelle Joseph Wolf. Tu peux me dire cette histoire là, de cet Allemand là qui peint, là, qui a une histoire particulière?
Alors Joseph Wolf, c'était un Allemand de l'armée allemande qui visiblement n'était pas très en accord avec ses autorités et qui, quand les Allemands ont pénétré à Paris, il est venu se réfugier en zone libre et notamment à Marseille.
Dans un désert.
Donc c'était un déserteur. Après, il allait à Sujeton, aux pierres tombées, et en 42, donc Jean Murat l'a peint. Et il était toujours accompagné par son chien, un berger allemand. Et par contre, il est resté à Marseille après la Seconde Guerre mondiale. J'ai des traces de lui après la Seconde Guerre mondiale où effectivement il fréquentait encore les Calanques. Donc il est passé au travers des nazis. Pas où il s'est réfugié, ça je le sais pas.
Mais un mystère, mais c'est vrai que bon, c'est amusant de savoir cette histoire de cet Allemand déserteur qui fréquentait les Calanques de Sujeton.
Après, pour l'histoire des Juifs, j'ai une belle histoire aussi parce que dans mes recherches, j'avais la crainte de tomber sur un précurseur du naturisme marseillais, hein, qui est un véritable salaud, collabo, tout ça. Ça aurait été possible et il aurait fallu que je le raconte pour être le plus exhaustif possible, enfin le plus réaliste, le plus crédible, on va dire. Et je suis tombé sur l'histoire du docteur Beltrami qui a aidé ses enfants à sauver des Juifs du bombardement du secteur de la mairie, du vieux panier.
Ah oui, dans la destruction du panier.
Voilà, la destruction.
De la rafle et de la destruction.
C'est ça, de la rafle du panier, avec la bienveillance des autorités marseillaises de l'époque. Et il a accueilli des Juifs chez lui. Et donc, le docteur Beltrami a aidé ses enfants les aidant financièrement. Et ses enfants, donc, ont été reconnus comme Juifs. Juste par les Juifs plus tard.
Et bien sûr, le régime de Vichy n'était pas dans la promotion du naturisme.
Ah non, alors là, eux, pas du tout, du tout. Mais comme les nazis, hein, en fait, hein, du coup, ils étaient en accord avec Goebbels, qui considérait que le nazisme était contraire à la pudeur féminine et une véritable...
Il n'y a pas eu en France de naturistes qui ont tombé dans le panneau du fascisme?
Dans le naturisme français, oui, il y a eu des naturismes qui ont été des défenseurs de Vichy, oui. Oui, des pétainistes, oui, il y en a eu, oui. Ils n'ont pas eu véritablement d'incidence sur l'histoire, à proprement parler, et sur le mouvement, ni sur son évolution. Mais c'est vrai que certains avaient des idées un petit peu eugénistes. Mais après, quand on retrace cette pensée dans le contexte de l'époque, on se rend compte que l'eugénisme, c'était courant à l'époque. Enfin, tout le monde avait des pensées plus ou moins de régénération, par rapport à tout ce qui s'était passé à la Première Guerre mondiale. Il fallait fortifier l'individu, donc
comme le savant Alexis Carrel.
Voilà, je pense notamment à lui qui effectivement avait des vues très très discutables.
Ou à Marseille, on a débaptisé la rue Alexis Carrel, la rue Armand Carrel. On a trouvé un autre Carrel, ouais, plus honorable que celui-ci. C'était un républicain du 19e siècle, pas très connu, mais bon, qui a l'avantage de porter le même nom que Carrel et un prénom presque analogue.
Mais j'ai pas lu les revues, enfin les articles ni les livres Alexis Carrel, il faudrait que je les lise pour avoir si j'arrive à les lire.
Oui, Melvin, je pense que bon. Alors, par contre, ce qu'il faut savoir, parce que là, on est dans la période de la guerre, donc on a parlé des collabos, de Vichy, ça. Du côté des résistants, bon, alors, je sais que, pas dire que tout le reste était des naturistes, c'était pas le combat d'un naturiste, des naturistes, mais il y a des résistants qui, plus tard, ont marqué le monde des naturistes.
Ah oui, notamment à Marseille, avec Oxent-Missirov. Alors ça, c'est aussi une recherche que j'ai faite pour mon livre, qui est passionnante, puisque Oxent-Missirov avait pour surnom Alyosha et comme nom de résistant Matéi. Et pendant un certain temps, j'ai cru que c'était trois personnes différentes. Donc, j'ai écrit des chapitres pour chacun d'eux. Et quand je me suis rendu compte que c'était la même et unique personne, il a fallu que je réécrive tout. Mais bon, ça, c'était rigolo. Et donc, Oxent-Missirov est un Russe qui a fui la révolution de 1917 en tant qu'étudiant à 17 ans. Et donc, il est parti officiellement avec l'accord des autorités faire ses études en Suisse. Mais il n'est jamais revenu. Et puis après, il s'est installé à Grenoble. Et puis quand la guerre est arrivée, il s'est embarqué dans la résistance parce que c'était un anarchiste et il concevait pas le régime nazi et la propagande nazie. Forcément, c'était aux antipodes de ses convictions politiques. Et donc, il s'est engagé dans la résistance, dans le maquis de Barème. Il a écrit d'ailleurs un livre, au souvenir du maquis de Barème, où il dit clairement que, il raconte le quotidien de son passé de résistant et ce qu'il a fait et ce qu'il a constaté sur le terrain. Voilà. Un petit livre qu'il a écrit en 75.
Bref, un réfugié russe qui avait fui la révolution bolchevique, mais qui pour autant a refusé de suivre Hitler en 42 dans le front de l'Est.
Oui, à un moment donné, quand il est parti en Suisse, il était question qu'il rejoigne sa tante, je crois, en Allemagne. Et puis, comme ça virait un petit peu vinaigre, il a bien senti que c'était pas bon. Il a préféré ne pas y aller. Et sa tante, d'ailleurs, est partie. Et du coup, je ne sais plus si c'est sa tante ou sa cousine, mais quelqu'un de sa famille. Et il s'est installé à Grenoble, il a fait des études d'électricien, il a fait des petits boulots et puis après il s'est lancé dans la résistance. Et il a rejoint Marseille en 46 je crois, ou fin 46 je crois. Il me semble qu'il a assisté à des événements qui l'ont fait assez rire, c'est-à-dire que des résistants de dernière heure sortaient des fusils dans les rues et tiraient en l'air pour se faire voir et être pris en photo en disant qu'après ils étaient résistants, c'est-à-dire qu'ils tiraient dans des coins, des choses comme ça. Éventuellement, ce qu'on pourrait rajouter, que Marseille a été à l'origine de nombreuses associations naturistes entre 1934 et 1940, puisque les médecins, les précurseurs de naturisme marseillais étaient très proches d'autres médecins, notamment à Nice, Cannes, Nîmes ou Arles, et ils ont créé ou en tout cas aidé et contribué à créer d'autres associations pour que le naturisme se développe dans la région. Ils étaient tous adhérents de la section Vivre de Kiel-Mongeau, qui après rejoint aussi la Fédération française du naturisme après la Seconde Guerre mondiale.
Je te remercie.
Vous avez pu entendre des extraits du film du gendarme de Saint-Tropez de Jean Giraud, sorti en 1964, ainsi que la chanson Dans ma petite calanque d'Henri Alibert, chanson sortie en 1935, et une autre chanson sur le port de Marseille d'Henri Alibert, écrite dans les années 30 par son beau-père Vincent Scotto et interprétée par un artiste dont je n'ai hélas pas le nom. C'était 120 ans d'histoire du naturisme à Marseille.
Deuxième partie, car Marseille était capitale du naturisme. C'était l'histoire continue et permanente, une émission proposée et animée par Éric Lobreux sur les zones de Radio Galère, 88.4 de la bande FM DAB+. Émission que vous pouvez réécouter et télécharger en podcast sur le site de Radio Galère.